Frères et sœurs, vous avez peut-être encore dans le cœur et dans l'esprit l'évangile de dimanche dernier. Nous sommes des serviteurs quelconques, nous avons fait que notre devoir. Vous vous souvenez combien notre Seigneur nous invitait finalement à occuper notre place sans attendre de retour, mais simplement en faisant ce que nous avons à faire. C'était sous le mode de la parabole, entrer dans une gratuité du service. Et juste après vient le passage que nous avons entendu dans l'Évangile selon saint Luc. Passage qui se trouve uniquement chez saint Luc et je crois qu'il est en accord profond avec la parabole que nous entendions dimanche dernier. Il y a d'abord des choses très connues dans ce passage. C'est la situation des lépreux. Au début de l'évangile de Luc, il y a un autre lépreux, mais qui est seul, et un lépreux aussi que Jésus touchait au début de l'évangile. Ici, c'est un groupe mis à l'écart, un groupe donc qui respecte les prescriptions du Lévitique, chapitre 13, un groupe qui est mis à part. Je crois qu'il faut bien percevoir que la question est une question sanitaire, évidemment, éviter la contagion, mais aussi que pèse sur ce groupe une exclusion extrêmement forte, exclusion religieuse et sociale. Parce que la prescription de la loi de Moïse, et c'est comme ça que fonctionnent toutes les sociétés et toutes les religions face à une situation pour laquelle on ne peut rien faire, on encadre, on isole et on met de côté. Ainsi, la situation de ces lépreux. Et Jésus leur adresse, vous l'avez entendu, une parole collective. Il n'y a pas de contact, je le redis, il y a simplement une parole dont ce groupe devient porteur. La parole de Jésus. Ce groupe se met en route vers Jérusalem. Allez vous montrer aux prêtres. Par là, Jésus montre qu'il respecte les prescriptions du chapitre 14e du Lévitique. En cas de guérison, le lépreux doit se montrer aux prêtres. Et accomplissant la parole de Jésus, se rendant à Jérusalem, eh bien voilà qu'intervient pour eux la guérison. Vous voyez, jusque-là, je dirais, les choses fonctionnent pas trop mal. Le groupe exclu a gardé sa cohérence, il va rentrer dans le cadre de la loi de Moïse, reprendre sa place dans ce village situé entre Galilée et Samarie. Et peut-être est-ce là où se trouve un des éléments d'interprétation du texte. Les traducteurs hésitent. Ils se disent, est-ce qu'il faut dire que Jésus est en train d'aller à Jérusalem et donc qu'il va de Samarie en Galilée, mais on va plutôt de Galilée en Samarie lorsque l'on se rend à Jérusalem, ou bien plutôt dire que Jésus se trouve aux confins de la Galilée et de la Samarie. Et à ce moment-là, on comprend que dans ce groupe de Juifs se trouve un Samaritain. Et puis, il y a le fait qu'ils sont 10, ces Samaritains. 10 qui se trouvent précisément entre Galilée et Samarie, aux confins, dans ces confins de l'ancien royaume du Nord, de l'ancien royaume de Samarie qui a disparu au 8e siècle, et dont la Sainte Écriture nous dit aussi que c'est à ce moment-là qu'a commencé l'importation de populations dont on ne savait pas très bien d'où elles venaient et qui ont opéré une sorte de syncrétisme entre leur propre culte et une partie du culte de Judas, et ont établi un temple parallèle sur le mont Garizim, les Samaritains. Et voyez, nous avons là un des éléments qui vient faire en quelque sorte exploser ce groupe. Ce groupe qui était soumis à la loi de Moïse, l'exclusion. Ce groupe qui se rend à Jérusalem, donc qui vient accomplir, là encore, la loi. Voilà qu'il y en a un parmi eux qui n'a pas allé au temple de Jérusalem, un qui ne va pas d'habitude au temple de Jérusalem, un qui est précisément un hétérodoxe, un mécréant, quelqu'un qui non seulement est lépreux dans sa chair, mais aussi quelque part lépreux dans sa foi. Et c'est précisément celui-là qui se trouve aux confins de la religion juive, celui qui se trouve dans une situation critique, c'est celui-là qui va être perméable à l'action de Dieu en lui, non plus simplement la guérison, mais le salut. Ta foi t'a sauvé. Et Luc, en excellent écrivain, j'allais dire s'amuse, il fait des allusions très discrètes dans ce passage, un passage que vous connaissez par cœur, qui est celui de la nuit de Noël, celui des bergers. Les bergers qui, après avoir rencontré le Sauveur, repartent en glorifiant Dieu et en lui rendant grâce. Et il fait encore une autre allusion qui se trouve un peu plus loin dans son évangile, au moment où les disciples vont entrer à Jérusalem, et bien voilà qu'ils vont parler comme les anges la nuit de Noël. Ils vont annoncer paix aux hommes et ils vont rendre gloire à Dieu. Et voyez, par là, Luc, d'une manière extrêmement habile, nous montre déjà un salut qui se dilate du côté des bergers, de ces mécréants, de ces gens qui vivent la nuit entre chiens et loups, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils font, qui sont des religieux qui doivent certainement pactiser avec quelques forces naturelles. Voilà que notre Samaritain, mécréant, hétérodoxe, hérétique, tout ce que vous voulez, est lui aussi qui va être perméable à la parole de Dieu. Et voilà qu'il devient comme une préfiguration de ses disciples qui entrent dans la ville sainte avec Jésus. Comme il est sympathique, ce Samaritain, finalement. Nous invitons peut-être d'abord à ouvrir les yeux sur nos communautés, sur notre monde, où nous avons rapidement fait de mettre les uns et les autres dans des cases, les cataloguant selon leurs opinions politiques, religieuses ou je ne sais quoi, se collant des étiquettes de tous les côtés, parce que nous avons peur, parce que nous avons besoin de nous rassurer, parce que la rencontre avec l'autre est toujours difficile, onéreuse et complexe, parce qu'elle touche à notre complexité personnelle. Et puis cet évangile nous dit, me semble-t-il, quelque chose d'encore plus important, de radical, de fondamental pour notre attitude de croyant aujourd'hui. Nous sommes sauvés par grâce, frères et sœurs. Ta foi t'a sauvé. Bien sûr, ici, c'est une guérison repérable. C'est du sanitaire, c'est une chair qui est en train de pourrir. C'est un homme qui est exclu, c'est un homme qui est à bout, oui. Mais dans l'Évangile, le Seigneur dit aussi « ta foi t'a sauvé » à la pécheresse qui vient pleurer à ses pieds. La pécheresse, elle aussi, exclue, stigmatisée par Simon le pharisien. Et pourtant Jésus lui dit « ta foi t'a sauvé ». Oh, ce n'est plus ici guérison de chair, c'est guérison de cœur, d'âme, d'esprit, une guérison encore plus radicale, fondamentale, onéreuse, difficile. Cela nous dit à chacun d'entre nous, quelle est ma foi? Quelle est mon ouverture concrète, existentielle, quotidienne au salut en Jésus-Christ? Ce salut que Luc a entendu de la bouche même de l'apôtre Paul lorsqu'il l'accompagnait. Paul qui nous ne cesse de redire que la loi, que les observances de la loi, que les œuvres ne servent à rien, que c'est Dieu qui sauve par grâce et que cette grâce vient nous transformer et qu'à ce moment-là, elle nous donne de faire les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Le salut en Christ, frères et sœurs, cette foi qui sauve, cette foi qui nous transforme, cette foi qui vient guérir tout ce qu'il y a de pourri et d'abîmé dans notre existence, tout ce qu'il y a de fétide et de nauséabond dans nos vies, à commencer peut-être par la peur de nous-mêmes, par la peur des autres, pour nous assurer qu'au centre de notre existence se trouve Jésus, le ressuscité, ce maître vers lequel nous revenons. Nous revenons non pas pour en recevoir une quelconque récompense, mais comme le Samaritain dans l'action de grâce. Nous rendons compte que tout dans notre existence est don. Tu existes, c'est un don de Dieu. Tu as tel talent, c'est un don de Dieu. Tu es croyant, c'est un don de Dieu. Tu célèbres aujourd'hui l'Eucharistie, c'est un don que Dieu te fait. Tout est don, tout est grâce, et donc pouteux peut devenir action de grâce. Dans un instant, frères et sœurs, nous célébrerons l'Eucharistie, qui veut dire précisément action de grâce. Le Seigneur vient saisir notre existence. Il nous vient nous faire comprendre combien tout revient à son Père, en lui, dans l'Esprit Saint. Et dans le dialogue qui ouvre la préface, qui est la première étape de la prière eucharistique, je vous dirai « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ». Ensemble, faisons Eucharistie. Ensemble, accordons notre vie à l'action de grâce qui ne cesse de monter du cœur de Jésus vers son Père dans l'Esprit Saint. Accueillons cet Esprit qui veut nous faire crier « Abba, Père ». Cette grâce qui nous travaille, cette grâce de Dieu qui nous sauve, cette foi qui nous saisit et qui nous fait rendre grâce à Dieu en Jésus. Voilà notre Eucharistie. Voilà cette grâce qui nous saisit, cette foi qui nous sauve. Amen.